Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
On demande un permis pour refaire une cabane à outils à la campagne et on se retrouve avec une villa avec piscine.
Et c'est pas pareil, 62% de construction illégale au pied du Vésuve. Un casse-tête pour les autorités, une vraie catastrophe en vue s'il fallait évacuer tout le monde. La zone rouge, c'est 700 000 personnes quand même, vous l'entendrez dans l'escale sonore d'Un jour dans le monde ce soir. Sous les radars et Hélène Roussel, vous l'avez entendu au Cambodge, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni. L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, en Finlande, le pays où on est heureux. Et Angélique Boin nous dira même qu'il a plu ce matin, figurez-vous, le monde à l'envers de Jean-Marc Four, entre la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et la Coupe du monde de foot féminin. Vous verrez que les hommes et les femmes ne voient pas les choses de la même manière et la géopolitique du foot ne se passe pas exactement de la même manière non plus. Avant cela, allons faire des courses en crypto-monnaie, s'il vous plaît. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
Facebook l'a donc annoncé le 18 juin dernier et depuis l'idée fait beaucoup cogiter, inquiète aussi certains, une monnaie, une crypto-monnaie aussi libre qu'Internet qui pourrait faire mieux que les concurrentes sur le marché. Elle s'appellerait Libra. Elle a déjà séduit Uber, Visa, eBay, Spotify et plein d'autres, mais inquiète aussi quelques banques centrales au point qu'une task force a été créée au sein du G7 pour étudier l'affaire. On en parlera d'ailleurs au sommet de Chantilly, ce sera à la mi-juillet. Bonsoir Manuel Valente.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Vous êtes directeur de la recherche de CoinHouse, spécialiste des crypto-monnaies. CoinHouse, puisqu'on en a déjà parlé ici, c'est anciennement la maison du Bitcoin. Manuel Valente, depuis 10 ans effectivement que le Bitcoin existe, il a séduit, on s'en rend bien compte, à la marge. En fait, seulement pour l'instant à la marge, on découvre que d'autres crypto-monnaies existent ici et là, à la marge de la même manière. Pourquoi celle-ci semble-t-il les plus séduisantes, en tout cas, a séduit de très grandes entreprises? Qu'est-ce qu'elle a de plus apparemment, cette Libra?
Alors déjà, le point fondamental, c'est que Facebook a une base d'utilisateurs qui dépasse les 2 milliards de personnes.
Ah oui, comme vous dites, ça fait du monde.
Donc immédiatement, vous avez 2 milliards de personnes qui vont être capables de l'utiliser sans coup férir, juste en utilisant leur compte Facebook d'ores et déjà activé.
Donc c'est la raison pour laquelle les Uber, les Spotify, etc., ce qu'ils voient, c'est l'immense marché. C'est un marché complètement inédit, en fait, au fond, non?
Très clairement. Le but fondamental de cette monnaie, c'est de pouvoir s'échanger entre particuliers des fonds facilement. Des choses que, malheureusement, aujourd'hui encore, restent difficiles. Si je vous dois 10 euros... je peux vous donner un billet de 10 euros, mais sinon, je peux difficilement vous faire un virement ou un chèque. Alors que, par le biais de Libra, l'idée, c'est que ce sera ultra facile, aussi facile que de s'envoyer un message.
Mais en même temps, alors, peut-être plus rapide, mais honnêtement, c'est pas si compliqué de m'envoyer 10 euros, non?
Si on est à distance, c'est déjà plus pénible. Je peux difficilement vous envoyer un chèque. Alors, il y a des applications qui existent.
Désormais, les banques ont des applis qui permettent de faire ce genre de choses, mais pas assez développées?
Voilà, malheureusement, il y en a aucune qui a vraiment réussi à s'imposer sur ce marché. Et donc ce marché reste encore grand ouvert pour un acteur tel que Facebook.
Alors on va y venir justement. Je voudrais d'abord que vous nous expliquiez comment on fait pour lancer une monnaie. En fait, ça se base sur quoi? Il faut bien, au départ, il faut bien qu'il y ait une parité par rapport à quelque chose. Donc par rapport à l'or, le dollar, le yen, par rapport à un panier de devises. Comment ça se passe exactement? Comment on fait quand on se dit je vais créer une monnaie?
Alors on n'a pas forcément besoin d'avoir une parité. Par exemple, la toute première des crypto-monnaies qui s'appelle le Bitcoin, elle n'a pas de parité par rapport aux devises existantes et donc son cours évolue en fonction de l'offre et la demande. Facebook a voulu faire autrement. Facebook a voulu créer une crypto-monnaie qui soit stable, c'est-à-dire dont le cours évolue peu ou pas du tout. Et donc pour faire ça, ils ont effectivement utilisé un panier de devises qui donne de la stabilité à leur crypto-monnaie. Et alors c'est là où c'est intéressant, parce que vous avez cité les partenariats que Facebook a établis, et c'est ces partenaires qui vont fournir les fonds qui vont servir de réserve et qui vont assurer la stabilité du Libra.
Ça veut dire qu'il y a un ticket d'entrée en fait pour entrer à Libra, et donc tout le monde devra payer une somme de 10 millions de dollars. On sait d'ailleurs pas combien de Libra ça correspond aujourd'hui, ces 10 millions de dollars, on ne le sait pas encore, on le sait ou pas, non?
Alors vaguement, parce que on sait qu'ils cherchent une centaine de partenaires, donc vous faites le calcul, 100 partenaires multipliés par 10 millions de dollars, vous arrivez à peu près à 1 milliard. Et donc on se dit, c'est à peu près ça la base de départ de la monnaie Libra.
Mais puisqu'on crée du Libra, ça veut dire qu'on crée de la monnaie. En gros, est-ce qu'on parle de monnaie ou est-ce qu'on parle de système de paiement ou est-ce qu'on parle des deux, en fait?
C'est un peu des deux. L'idée, c'est que fondamentalement, vous savez, c'est à peu près la même chose que lorsque vous rentrez dans une kermesse. Quand vous rentrez dans une kermesse, vous donnez un billet et on vous donne un ticket à la place. Ce ticket peut normalement être échangé à l'aller comme au retour pour votre billet en euros. Bah ici, c'est la même chose. Vous rentrez avec du dollar ou de l'euro, vous obtenez du Libra, vous pouvez le dépenser et vous pouvez, en sortant, récupérer vos euros.
Et qu'est-ce que Facebook y gagne au passage? Parce que chez Zuckerberg, ils sont pas philanthropes, donc j'imagine qu'ils ont quelque chose derrière. Ah, j'ai plusieurs questions là-dessus. Qu'est-ce que Facebook y gagne au passage? Et qu'est-ce que je sais moi de qui saura combien j'ai de Libra, qui je suis pour avoir ces Libras-là, et donc quels algorithmes vont se retrouver chez moi uniquement parce que j'ai subitement ça? Est-ce que tout cela a été réglé ou pas du tout?
Alors, vous posez exactement la bonne question. Vous savez, le business model de Facebook a toujours été le même. Ça a toujours été de fournir des services gratuits à ses utilisateurs et de ramasser un maximum de données sur ce qu'ils font. Mmh. La donnée sur vos dépenses, c'est à peu près la donnée la plus
sensible.
C'est
la seule qui manque, en fait, au fond.
Et la plus intéressante à récupérer. Vous pouvez toujours mettre un pouce, un like sur un produit. Au final, ce qui compte, c'est ce que vous dépensez réellement. Alors, Facebook, bien entendu, a fait des promesses sur le fait que les données allaient être correctement protégées, etc. Et nous avons lu les conditions d'utilisation du produit chez CoinHouse. On a vu que la blockchain Libra, elle présente des conditions d'utilisation qui sont relativement protectrices de ses utilisateurs. Et ce sont ces données-là qui seront partagées avec les partenaires de Facebook. Mais par contre, il y aura un portefeuille numérique. Et ce portefeuille-là, par contre, les conditions d'utilisation, elles permettent beaucoup plus à Facebook de partager toutes les données qu'il souhaite.
Alors attendez, j'ai pas tout compris. Ça veut dire qu'au fond, disons-le un peu basiquement, j'en ai 100 des Libra. Est-ce que ça veut dire qu'une partie sera connue de qui? Des fameux entrants, ceux dont on parlait, qui auront payé un droit d'entrée. Ceux-là auront forcément accès à ce que j'ai ou pas?
Ils auront une partie de l'accès, notamment d'accord, toutes les transactions, mettons Uber. Si vous payez votre Uber en Libra, bah Uber, ils vont voir à peu près toutes les transactions d'accord, que vous allez effectuer via Libra. Par contre, Facebook devrait avoir l'intégralité de toutes les transactions et pourrait éventuellement les monnayer.
Est-ce que j'ai la certitude, ou même si pour l'instant on n'en sait rien, est-ce que le risque c'est pas ça à terme? Effectivement, vous donniez l'exemple, si je like un magasin de chaussures, est-ce que ça veut dire qu'à terme, le magasin de chaussures aura accès à ce que je possède, y compris en termes de Libra? Où est mon pouvoir d'achat et comment aller me chercher pour que je les achète directement en un clic, les fameuses chaussures? Est-ce qu'ils auront ce moyen-là?
A priori, non. Par contre, il est possible que Facebook commence à prendre ces données et commence à pouvoir les vendre au plus offrant. Et dans ce cas-là, ils pourraient par exemple faire de la publicité. On voit que vous aimez bien ce genre de chaussures, donc on va vous montrer davantage de publicité autour de ce produit. Et puis revendre ces informations à d'autres et ainsi de suite. C'est vraiment une augmentation et on arrive vraiment à un contrôle total de toutes les données sur les utilisateurs de la plateforme.
Vous parlez d'une monnaie stable, effectivement, et c'est bien ça ce qui est peut-être un peu neuf, en fait, y compris par rapport au Bitcoin, mais effectivement, vous le disiez, le Bitcoin n'est pas stable, on l'a vu d'ailleurs monter et descendre. Pourquoi on peut avoir cette certitude-là? Pourquoi on n'est pas sûr? Comment on peut ne pas avoir la certitude que le Libra ne va pas s'effondrer et qu'on perdra tout cet argent?
Dans la mesure où vous avez toujours la base de ce milliard de dollars dont on parlait tout à l'heure, vous avez toujours la possibilité de prendre vos Libra et de les rééchanger contre du dollar. Donc a priori, on devrait toujours avoir cette garantie de stabilité, sauf si on commençait à s'amuser à produire plus de Libra que ce qu'on a en stock.
Mais produire plus, moi je pensais naïvement qu'il n'y a que les banques centrales qui ont le droit de produire de l'argent en fait. Ça veut dire qu'un opérateur privé comme Facebook a le droit aussi de produire de l'argent, parce que produire des Libra, au fond, c'est produire de l'argent.
Alors, vous vous souvenez, on faisait cette analogie tout à l'heure à la kermesse. Mm-hmm. Au final, un Libra, c'est à peu près comme votre ticket de tombola à l'intérieur de la kermesse. Sauf que, c'est vrai que vous avez raison que les États, notamment, commencent à s'intéresser de très près à cette idée. On a vu Monsieur Le Maire qui a exprimé des fortes réserves sur ça. On a vu des sénateurs et des représentants américains qui ont demandé clairement à Facebook de ne pas continuer sur ce projet tant qu'il ne se serait pas penché sur cette question de façon très étroite. Et donc, vous posez bien évidemment la question sur le fait qu'on voit des très grandes entreprises, les GAFA, qui commencent à s'extraire de plus en plus du contrôle des États, bien sûr.
Est-ce qu'on peut réellement aujourd'hui s'extraire de toute façon du contrôle des États? Est-ce qu'on peut, comme ça, effectivement, créer une monnaie indépendamment des banques et indépendamment des banques centrales? Aujourd'hui, est-ce que c'est même permis, en fait, ou pas? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que les banques centrales entre elles, il va y avoir d'ailleurs une réunion et en tout cas des discussions au moment du prochain G7, est-ce que qui a le droit de dire à Facebook, non, ne le faites pas parce que pour nous, c'est pas sûr. Est-ce que quelqu'un a le droit de dire ça de toute façon? Ou est-ce que c'est fini, c'est parti?
Alors, comme je vous l'ai dit, les sénateurs et les représentants américains, ils ont clairement dit ça à Facebook, arrêtez pour l'instant, laissez-nous regarder le projet et l'étudier.
Mais légalement, est-ce qu'ils peuvent le faire? Ou est-ce que Zuckerberg pourrait leur dire, vous êtes gentil, mais moi je fais mon business de mon côté et puis vous faites le vôtre du vôtre? Est-ce qu'il y a une manière de se prémunir contre ça ou pas?
Difficilement. Dans la mesure, par exemple, où la fondation Libra n'est même pas située aux États-Unis, mais que c'est une fondation qui est située en Suisse. Donc, bien évidemment, ces entreprises-là, elles comptent et elles utilisent sans aucune vergogne le fait qu'elles peuvent être à peu près dans n'importe quel pays. On l'a vu notamment pour les problématiques autour du paiement de leurs impôts.
Qu'est-ce qui inquiète réellement, selon vous, les banques centrales? On dit, par exemple, c'est un peu ce que Facebook a mis en avant, que certains pays qui sont des pays émergents pourraient préférer, au nom de la stabilité de la monnaie, en fait, pourraient préférer des échanges en Libra qu'une monnaie qui peut être très tangente pour eux. Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça risque de bousculer, selon vous?
Mais on sait que la création monétaire est une des fonctions régaliennes des États, une des fonctions les plus essentielles de leur fonctionnement. Et là, on voit une nouvelle émergence d'une sorte de, on pourrait même appeler ça un nouveau pouvoir, le pouvoir de ces énormes entreprises multinationales. Je pense que c'est très clairement à ça auquel faisait référence Monsieur Le Maire et les représentants américains. On ne sait pas exactement où est-ce que, dans quelle direction on va. On voit ces entreprises qui, comme je vous l'ai dit, qui s'éloignent du contrôle des États-nations et qui deviennent vraiment extrêmement puissantes au niveau international.
Libra annonce l'anonymat des utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, on avait beaucoup dit ça au moment du Bitcoin. On a dit, c'est la porte ouverte effectivement à toutes sortes de trafics. Qu'est-ce qui m'empêche d'acheter des armes avec des Bitcoins? Qu'est-ce qui va m'empêcher d'acheter des armes avec Libra aujourd'hui? Comment peut-on obliger à lever cet anonymat, sachant que moi, je peux être sur Facebook au nom de Albertine du genou et ce sera toujours moi en fait.
Alors déjà le fait que lorsque vous allez créer un portefeuille sur Libra, la première chose qu'on va vous demander, ça va être une pièce d'identité. Et à mon avis, elle sera clairement surveillée, clairement vérifiée, etc., etc. Et notez également que dans le monde du Bitcoin, et notamment chez nous, chez CoinArms, c'est des choses qui se font d'ores et déjà au quotidien. On vérifie les identités. L'idée de pouvoir acheter du Bitcoin sans aucune trace et sans aucune légitimité, aujourd'hui, elle est vraiment battue en brèche. Et Libra, dès le premier jour, ce sera très clairement très très surveillé. Et on peut également compter sur le fait que votre compte Facebook sera étroitement lié à votre compte Libra et que sur ce point-là, en tout cas, il n'y aura pas de problème.
Mais ça veut dire quoi du coup, l'anonymat des utilisateurs de Libra? Je ne comprends pas très bien du coup ce qu'ils veulent nous dire. Quand ils l'annoncent comme un plus, en fait.
Oui. Alors, il faut voir deux choses différentes. C'est le réseau Libra lui-même, les transactions seront anonymisées. Par contre, le portefeuille, lui, sera sous le contrôle de Facebook et lui ne sera pas anonymisé. Donc, les partenaires de Facebook, ils verront pas forcément toutes les transactions qui passent sur le réseau, mais Facebook, eux, ils auront le contrôle total.
Manuel Valente, il y a cette monnaie Libra, il paraît que Telegram du coup a dans l'idée d'en créer une autre, il en existe de multiples.
Oui.
Est-ce que les unes vont manger les autres en fait, vont tuer les autres, ou est-ce qu'on peut désormais vivre, est-ce qu'on peut imaginer à terme qu'il y aura de multiples monnaies virtuelles et que on paiera un coup avec l'une, un coup avec l'autre? Ça vous paraît cohérent?
Depuis l'apparition du Bitcoin en 2009, il y a eu à peu près plus de 2000 crypto-monnaies qui ont été créées sur le marché. On peut se dire que 2000, c'est énorme, c'est trop. Moi, je le pense à titre personnel. Je pense qu'il y a du nettoyage qui devra être fait. Il y a certaines de ces monnaies qui ne sont pas utiles, qui devraient disparaître. Mais c'est un marché. Vous avez différentes propositions de valeur qui arrivent sur ce marché avec des gens qui ont des propositions avec certaines monnaies qui sont plus rapides, d'autres qui sont stables, d'autres qui sont liés à des entreprises, d'autres complètement séparés des entreprises. Vraiment, on a l'explosion d'un marché avec plein de propositions différentes. Alors nous, on essaye justement de proposer ça aux investisseurs et à les aider un peu à naviguer à travers cette jungle.
Mais parce que vous, par exemple, avec le Bitcoin, vous êtes au-delà même de l'échange de transactions, on est aussi dans des crédits, des placements. Qu'est-ce qui finit par différencier, ce sera peut-être le cas avec Libra, qu'est-ce qui permet de différencier au fond ça d'une banque où là, pour le coup, effectivement, qui est là pour vous proposer crédit, placement, taux d'intérêt, etc., etc. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous différencie?
Alors la banque, fondamentalement, elle, pour l'instant, elle ne bat pas monnaie. Elle utilise juste la monnaie qui est créée par une banque centrale, etc. Mais vous avez raison, les deux univers de ce qu'on appelle la finance décentralisée et la finance traditionnelle sont aujourd'hui en train de se rapprocher. On commence à voir des produits financiers qui commencent à utiliser les crypto-actifs et on commence à voir des projets dans les crypto-monnaies qui commencent à, comme vous dites, faire des prêts, faire du placement, etc. etc. Donc les deux univers ont tendance à se rapprocher et c'est une excellente chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que la France est en train de mettre en place une régulation autour de ses acteurs et autour de ses actifs.
Est-ce que c'est l'émergence, si toutefois les choses émergent réellement, mais est-ce que l'émergence de toutes ces crypto-monnaies fait réfléchir les banques? Vous parliez tout à l'heure, vous donniez l'exemple des transferts d'argent qui peuvent parfois coûter cher. Est-ce qu'au fond, on est dans une espèce de système d'ubérisation de l'argent? Quand Uber est arrivé, on a fait réfléchir les taxis qui ont un peu changé leur manière de faire. Est-ce que au fond, c'est une manière aussi de secouer les banques qui, elles aussi, font donnent des offres un peu différentes, peut-être des coûts moins importants, parce qu'il y a derrière les crypto-monnaies. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose dans ce genre-là ou pas?
Bien sûr. C'est pas un hasard.
Ça existe déjà
si,
ou pas?
Mastercard ou Visa font partie du consortium qui va créer Libra. Libra a d'ores et déjà annoncé qu'une des cibles et l'un des intérêts principaux de cette monnaie, ça va être le fait de faire de la rémittance. C'est-à-dire les paiements internationaux. Par exemple, les gens qui envoient de l'argent à leur
D'accord.
famille en Afrique.
Donc les Western Union et équivalents, c'est
Exactement.
Ça l'idée
Exactement. Qui aujourd'hui encore font des commissions qui sont relativement chères et que Libra pourrait concurrencer extrêmement facilement.
Ce que ça veut dire à terme, en tout cas, vous êtes en train de nous dire aussi à terme que l'argent liquide est en train de devenir obsolète.
Oui, tout à fait. Vous savez, il y a un mouvement qui est très très clair, notamment en Europe, avec de moins en moins d'argent liquide qui est utilisé. Regardez, aujourd'hui, il y a même des cartes pour pouvoir utiliser les tickets resto complètement numérisés. On constate aujourd'hui que vous avez plus de 90% des euros qui sont en circulation à l'heure actuelle, qui n'ont jamais été imprimés, qui sont juste des octets dans des ordinateurs. Avec des projets comme Libra ou Bitcoin, on va un tout petit peu plus loin et on attend 100%.
Voilà, pour l'instant, en tout cas, c'est très rapidement... sur les bitcoins notamment, si on fait un pourcentage de gens qui possèdent réellement et qui utilisent des bitcoins, ça correspond à combien? Ça correspond à quoi?
Ça reste faible. Pour l'instant, on va dire en Europe, on tourne aux alentours de 3 à 4%.
Ce qui est très peu pour l'instant. Mais bon, moi je me souviens, je suis la personne qui a dit avec mon premier téléphone portable, je ne téléphonerai jamais dans la rue. Donc j'éviterai de dire là que je n'aurai jamais de crypto-monnaie. Allez savoir. Merci en tout cas pour ces explications. Manuel Valente, vous êtes directeur de la recherche de CoinHouse et spécialiste des crypto-monnaies. Merci.
France Inter. Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite, ça se passe au pied du Vésuve, où 700 000 personnes vivent dans ce qu'on appelle la zone rouge, celle qui doit être évacuée en cas d'éruption volcanique. Alors pour l'instant, on n'est pas d'actualité, mais enfin, ça fait quand même 62% de constructions qui sont illégales. Sous les radars et Hélène Roussel, vous verrez ce que coûte notamment la couronne d'Angleterre. L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes avec Angélique Boin au pays du bonheur, figurez-vous, qui est la Finlande. Et puis le monde à l'envers, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
La Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, le mondial féminin, Jean-Marc, que de géopolitique au ballon rond en ce moment, sauf que les hommes et les femmes ne regardent pas les choses de la même manière.
Et oui, le foot féminin et le foot masculin, c'est pas pareil. Je parle là de leur relation à la politique.
Allez, à tout de suite. Le tour de la planète n'est pas fini, puisqu'on a chaud. Tiens, Janis Joplin nous le rappelle, c'est l'été, summertime.
Looking good now. Hush.
Janis Joplin et son Summertime, probablement la version la plus géniale de cette chanson.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Hélène Roussel, une histoire au Cambodge. D'abord Hélène, le traducteur d'un documentaire sur la prostitution est aujourd'hui en prison.
Ratrot Moni a été engagé l'année dernière par la chaîne russe Chatoday pour servir de traducteur à des journalistes qui tournaient un reportage sur le trafic d'adolescentes, des jeunes filles vendues comme travailleuses du sexe. My Mother Sold Me, ma mère m'a vendu, c'est le titre. Un documentaire de 30 minutes diffusé en octobre dernier. Extrait. Le documentaire commence avec cette jeune fille de dos en robe blanche et qui marche le long d'une rivière. Elle raconte le visage flouté, elle a à peu près 15 ans, elle accepte pour aider sa famille, elle était la seule à pouvoir le faire, toute la famille comptait sur elle. Aujourd'hui, témoigne encore l'ado, elle n'en veut pas à sa mère, elle l'aime toujours et la respecte malgré ce qu'elle lui a fait. Des filles des bidonvilles vendues pour 400 ou 500 dollars à de riches Cambodgiens, la prostitution des mineurs et le trafic de jeunes filles, c'est ce que raconte ce documentaire. Mais ça n'a pas beaucoup plu, évidemment, au régime cambodgien. L'équipe de Rechatoday est intouchable, mais celui qui a servi de fixeur et de traducteur aux journalistes, lui, est cambodgien, c'est donc lui qui va payer. Ratrot Moni vient d'être reconnu coupable de création de fake news dans le but de ternir la réputation de son pays. Le porte-parole du gouvernement cambodgien l'accuse même d'avoir donné de l'argent à ces jeunes filles pour qu'elles témoignent. Ceci n'est pas une condamnation pour avoir parlé du trafic sexuel, non, c'est un message au public d'arrêter avec les fake news, affirme encore Phnom Penh. Bien sûr, verdict pour Ratrot Moni, 2 ans de prison, quand fake news rime avec censure. On peut noter au passage que la chaîne Rechatoday n'a toujours pas réagi.
Aux Pays-Bas, la Société nationale de chemin de fer indemnise les victimes de la Shoah.
Nederlandse Spoorwegen, l'équivalent de la SNCF, va verser des dizaines de millions d'euros, 15 000 euros pour les survivants, entre 5 et 7 000 euros pour les enfants, les veufs ou les veuves. 100 000 des 140 000 juifs de Hollande ont été déportés pendant la guerre vers les camps d'extermination nazis, un record en proportion après la Pologne. C'est la question du zèle des fonctionnaires aussi envers l'occupant, la passivité, voire l'antisémitisme de la population néerlandaise de l'époque. En 2005, la compagnie des chemins de fer néerlandaise avait qualifié la Seconde Guerre mondiale de page noire de son histoire et s'était officiellement excusée. Il aura quand même fallu attendre 14 ans pour les indemnisations. En même temps, si on regarde la France, 76 000 juifs déportés par la SNCF dans 78 wagons. La SNCF a ouvert ses archives, certes, mais n'a jamais été condamnée pour crimes contre l'humanité. Rien à voir. Et rapidement, j'ai repéré sur Twitter cette petite info. Conférence de presse commune à Bruxelles avec le président de la commission, Jean-Claude Juncker, et la présidente slovaque, Susana Kaputova. Question d'un journaliste dans la salle. Êtes-vous stressée, madame la présidente, car vous avez changé de vêtements 3 fois? Ok, évidemment, aucune question de ce type à l'homme. Mais l'homme, Juncker, ne laisse pas passer et prend le micro. Bah moi, c'est la 3e chemise que je porte aujourd'hui. Voilà, voilà.
Allez, bon, et sinon, Hélène, ça coûte combien alors un prince et une princesse?
Bonne question, chère, ma chère Fabienne. Time.com s'est amusé à faire un petit tableau des dépenses de la famille royale britannique. Les contribuables ont payé, par exemple, pour les rénovations de Frogmore House. Vous savez, ce manoir du XVIIe siècle qui sert depuis la naissance du petit Archie de résidence au couple Harry-Meghan au sud de Windsor. Montant 2 millions 1,5 million de livres. Mais ce n'est pas tout, les comptes de Sa Majesté dévoilent aussi de grosses dépenses en matière de transport et de voyage. La note la plus salée, Palme d'Or pour Charles et Camilla. 11 jours dans les îles aux Caraïbes et à Cuba avec le carré VIP à bord du Royal Air Force. Plus de 400 000 livres, ils ont dû en manger des kilos de langoustes. Charles et Camilla encore, tiens, Gambie, Ghana, Nigeria, petit périple en Afrique pour la modique somme de 200 000 livres et plus de 150 000 quand même pour le voyage en Grèce et en France le mois dernier. Bah oui, c'est cher Paris. Bon, en attendant le Brexit, vous savez quoi, puisque c'est la dernière, on va se faire plaisir. Vas-y. C'est bon les Sex Pistols,
oui,
quand même.
Oui, oui, absolument. Un peu téléphoné quand on parle de Londres, si je puis me permettre.
Oui, mais bon,
et pourquoi pas les Clash, tant qu'on y est. Allez, merci beaucoup.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington.
São Paulo.
Beyrouth, France Inter.
L'escale d'un jour dans le monde ce soir nous emmène à Naples, près de Naples, au pied du Vésuve. 700 000 personnes vivent dans ce qu'on appelle la zone rouge, celle qui devra être évacuée en cas d'éruption imminente du volcan, ce qui n'est pas pour l'instant évidemment prévu, mais reste quand même un casse-tête pour les autorités, car la zone est très densément peuplée, 8 à 10 000 habitants au mètre carré parfois. Bonjour Anaïs Feugat.
Bonjour Fabienne.
Au kilomètre carré probablement d'ailleurs. C'est vous qui nous amenez voir à quoi ressemble cette urbanisation galopante qui s'est développée depuis les années 60 et souvent de manière illégale. Dans la région Campanie, la justice estime que 62,3% des constructions sont illégales contre 19% seulement au niveau national.
Nous sommes ici sur la commune de Terzigno et voici devant nous une structure abusive qu'on a heureusement bloquée au début.
C'est un squelette de béton brut que nous montre Antonio Galozzi de Lega Ambiente, une ONG de protection de la nature. Mais devant ces piliers envahis par la végétation, un portail équipé de caméras de surveillance et un curieux va-et-vient de fourgons. Antonio prend discrètement son portable.
J'ai pris une photo du fourgon avec sa plaque, une photo géolocalisée de cette structure, et ça me permet de pouvoir partager ces informations avec les forces de l'ordre.
Il soupçonne ici un atelier textile clandestin.
Et vous voyez là, le fourgon s'en va, il n'a pas pu entrer. Vous avez vu combien il y en a dans cette petite rue ?
Tous les ans, Lega Ambiente publie son rapport Ecomafia. En 2017, 4000 infractions liées au cycle illégal du béton ont été relevées.
Des enquêtes de justice ont montré qu'on avait utilisé du béton frelaté pour construire certains immeubles. C'est-à-dire que le matériel utilisé, c'est donc surtout du sable et pas du ciment. La Camorra s'infiltre dans ce secteur en offrant des services. Il y a des cas dans lesquels on a édifié des villas, des maisons en une nuit seulement. C'est impossible que personne ne s'aperçoive de toute cette activité nocturne.
Est-ce que vous prenez des risques ? Est-ce que vous, personnellement, vous avez pris des risques ?
Bien sûr, nous courons des risques. Il y a aussi les menaces personnelles. Moi, on m'a menacé avec un pistolet dans la bouche, en bas de chez moi. Coup de fil anonyme. On sait bien que vivre dans un territoire où la Camorra est présente, c'est comme ça.
Plusieurs lois d'amnistie dans les années 80 et 90, loin de ralentir les constructions, les ont encouragées. L'État s'engageait alors à régulariser contre de l'argent. Mais il n'a rien fait. À Ottaviano, sur les pentes du Vésuve, le maire, Luca Capasso, se retrouve avec 3000 cas à gérer.
L'État a permis, il y a 34 ans, de faire construire puisqu'on a donné la possibilité de bénéficier d'une amnistie. Mais aujourd'hui, l'État n'a toujours pas donné le vrai titre de permis de construire. Tout ça, c'est la faute de ceux qui ont permis ce massacre.
Dans la zone rouge autour du volcan, on dénombre 27 000 constructions abusives. Ça va de la fenêtre non déclarée aux immeubles d'habitation. Mais impossible de savoir combien de personnes y vivent. Les chiffres n'existent pas. Le parc national du Vésuve, lui, soutient les pouvoirs publics dans leur lutte. Agostino Casilou en est son directeur.
C'est impensable de vouloir faire partir ces gens. Il y a eu une tentative il y a des années. On donnait de l'argent à ceux qui quittaient leur maison illégale en arguant de la sécurité en cas d'une éventuelle éruption. Mais ça n'a pas vraiment eu de succès. Et donc, que faire de ces constructions abusives? Une petite partie ont été détruites, environ 60-70. Mais c'est évident que ça coûte beaucoup d'argent et que les procédures sont très longues.
E anche delle procedure legali lunghissime.
Le parc national du Vésuve a mis un demi-million d'euros sur la table pour aider les communes à payer les coûts de destruction trop élevés pour elles. Et c'est pourquoi les Gambiente proposent que les préfectures et donc l'État s'en chargent. Un peu plus loin, toujours sur les pentes du Vésuve, Antonio Galozzi nous montre des pins parasols. En dessous, des villas neuves. Indétectable depuis les vues satellites.
C'est un marché qui ne connaît pas la crise, c'est sûr. Maintenant, on utilise peut-être d'autres techniques. On part avec une autorisation minimum. On demande un permis pour refaire une cabane à outils à la campagne et on se retrouve avec une villa avec piscine. Moi, je suis sûr que je ne suis pas en tort. Ceux qui se trompent, ce sont ceux qui construisent illégalement. Parce qu'à travers l'énorme richesse de biodiversité, on peut créer une autre économie qui ne soit pas l'économie du béton, mais qui est celle du tourisme, de l'œnologie, de la gastronomie. Il faut chasser de ces territoires cette camorra de merde.
Anaïs Feuga pour le reportage dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Allez, voilà Lizzo, Juice sur France Inter. C'est dans la playlist de France Inter. Dans la playlist de France Inter. Allez, direction la Finlande, tiens.
Je suis venu vous parler d'Europe.
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati. Per l'Europe.
Un jour dans le monde.
Géniale.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Et Angélique Bouin, comme tous les jeudis, c'est en Finlande que nous attend Angélique, puisque la Finlande s'apprête à prendre la présidence de l'Union européenne. Bonsoir à vous, Angélique. Vous êtes à Helsinki. Ça a l'air de se passer plutôt pas mal pour vous, non ?
Oui, je suis sur le quai face au bateau dans ce pays du bonheur, selon un dernier rapport de l'ONU, pays du bonheur, car les Finlandais ont en effet été élus pour la deuxième année le peuple le plus heureux du monde. Une étude basée sur le ressenti des gens, mais qui croise aussi des données comme le PIB par habitant, les aides sociales, l'espérance de vie ou encore les libertés individuelles. Pour tenter de comprendre pourquoi, j'ai posé la question ici. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est un pays d'abord où l'on est très proche de la nature. Le pays aux 188 000 lacs, il couvre 10% du territoire, Fabienne. En Finlande, tout le monde a donc un petit ou un grand chalet au bord de l'eau, si possible sans électricité, insistent certains. On vient y chercher le silence et la simplicité, m'expliquait hier soir un Finlandais, avec un sauna dans les chalets chauffés au bois, tout ça, ça détend. La clé du bonheur, c'est aussi notre pragmatisme, m'a expliqué un membre d'un cabinet ministériel, avec un exemple. Si les poussettes ne rentrent pas dans les tramways, on change les tramways. Voilà, il y a aussi, et bien sûr, l'État-providence qui fournit ici une certaine sécurité. Quand on est au chômage, par exemple, les familles sont aussi très aidés. Alors tout n'est pas rose, mais c'est vrai que les gens sont assez détendus, y compris question sécuritaire. Hier soir, nous avions avec mes confrères bruxellois un dîner dans une résidence d'État en présence du Premier ministre. Eh bien, nous n'avons eu aucun contrôle d'identité pour y accéder.
Et voilà, nous on n'a pas trop l'habitude, effectivement. Alors voilà, Angélique, un pays intéressant au sein de l'Union européenne par sa proximité, par ailleurs, avec la Russie, et parce qu'il est très actif dans la lutte contre les nouvelles formes de guerre, dont la désinformation.
Oui, il faut d'abord rappeler que la Finlande, c'est l'État européen qui partage la plus longue frontière avec la Russie, 1340 kilomètres. Un pays qui a vécu plusieurs guerres avec cet encombrant voisin, qui était neutre pendant la guerre froide et qui conserve une certaine neutralité. Il a néanmoins rejoint l'Union européenne en 1995, en priorité pour se protéger des Russes. Mais il n'a pas adhéré à l'OTAN, avec lequel le pays collabore pourtant énormément. Il y a des exercices militaires communs et la Finlande est intervenue dans le cadre des forces de maintien de la paix en Afghanistan, par exemple. À Helsinki se trouve depuis 2017 également le Centre d'excellence européen pour lutter contre les menaces hybrides que j'ai visité ce matin. Un organe qui réunit 22 pays, à la fois membres de l'UE et membres de l'OTAN. Ici, on met en place des stratégies pour faire face aux cyberattaques, aux campagnes de désinformation, mais aussi à l'usage non conventionnel des forces armées, en particulier par les Russes. Souvenez-vous par exemple de ces petits hommes verts qui ont envahi la Crimée en 2014 sans aucun insigne identifié. La guerre dite hybride, en fait, c'est celle qui va du tweet au temps qu'avait assez bien résumé le secrétaire général de l'OTAN à l'ouverture de cette structure il y a 2 ans. Dans ce bâtiment ne travaillent qu'une trentaine de personnes, mais elles échangent avec un réseau de 1000 autres chercheurs, militaires ou experts dans les 22 États. Le centre coordonne aussi des formations et publie des stratégies. Dans ce domaine, la dissuasion est aussi efficace que l'action, nous a-t-on expliqué ce matin.
Et une dernière chose, Angélique, malgré la peur donc du voisin russe et son ancrage très net à l'ouest que vous venez de nous raconter, pourquoi la Finlande n'est pas membre de l'OTAN?
C'est une question un peu délicate ici. Il y a une réponse qui est d'abord politique. L'opinion publique y reste très opposée, donc les autorités ne franchissent pas le pas. L'idée selon laquelle il ne faut pas fâcher les Russes est ancrée dans les mentalités. Depuis la Crimée et avec la multiplication des activités militaires russes en mer Baltique, le débat sur cette adhésion reste néanmoins très vif ici. Du côté des officiels que j'ai interrogés hier soir, on insiste sur la politique dite de la porte ouverte. On ne s'interdit pas d'y adhérer, on le dit bien fort. Cela maintient en quelque sorte les Russes à distance. Décrypte un bon connaisseur du dossier.
Angélique Boin, correspondante européenne pour France Inter, en direct d'Helsinki avec nous. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Sintès sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, la Coupe du Monde féminine de foot bat son plein donc, quart de finale demain entre la France et les États-Unis, faut-il le rappeler. Et en même temps, la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte cette année passionne le continent africain. L'occasion de vous interroger ce soir sur les relations entre le foot et la politique. Et tiens, c'est pas du tout, mais alors du tout la même chose dans le foot féminin et le foot masculin. C'est votre monde à l'envers.
Alors dans le foot masculin, on est maintenant habitué à le cas le plus fréquent, c'est l'instrumentalisation de toute grande compétition par le pouvoir politique, un classique même en démocratie, une opération de com'. Dans un pays à régime autoritaire, ça va plus loin. On en a un bon exemple sous les yeux avec l'Égypte qui accueille donc la Coupe d'Afrique des Nations depuis une semaine. C'est l'occasion pour le président Sissi de tirer profit de l'événement, essayer de redorer une image très détériorée tant il multiplie les atteintes aux droits de l'homme et aux libertés publiques. Sissi en polo, en pantalon de sport et donc aller poser avec l'équipe nationale et surtout aux côtés de la star, Mo, comme les appellent les Égyptiens, Mohamed Salah, l'un des meilleurs joueurs du monde. L'équipe est déjà qualifiée pour les 8e de finale après 2 victoires. C'est tout bénef politiquement, même si Salah, comme la quasi-totalité des joueurs de foot, notez-le, se garde bien de parler politique. Le pouvoir égyptien veut également profiter de la compétition pour démontrer sa capacité à organiser des grands événements. Les mesures de sécurité sont donc drastiques. et le prix des billets dans les stades. Prohibitif, pourquoi ? Objectif numéro 1, éviter que les supporters populaires ultra réputés pour être remuants politiquement en Égypte ne remplissent les gradins. Objectif numéro 2, de belles images pour séduire les touristes européens, asiatiques, arabes. Enjeu majeur pour l'Égypte où le tourisme commence à redécoller depuis 2 ans. Donc la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une aubaine pour le pouvoir égyptien.
Mais alors chez les filles ?
Alors le processus politique est un peu inverse, je m'explique. Dans le foot féminin, pas d'instrumentalisation par le pouvoir politique. En revanche, plusieurs joueuses s'expriment et parlent politique. L'exemple évident, c'est l'équipe des États-Unis championne du monde en titre, en particulier sa joueuse vedette Megan Rapinoe. Si vous avez regardé un match des Américaines, vous ne pouvez pas l'avoir raté. Cheveux courts, teint rose mauve, 156 sélections, 47 buts au compteur. Rapinoe est ostensiblement anti-Trump. Elle qualifie le président américain, je cite, de misogyne, raciste et sexiste. C'est une militante des droits civiques et LGBT. Elle revendique son homosexualité. Et comme le joueur de football américain Colin Kaepernick, elle a posé le genou à terre pour protester contre les violences policières envers les Noirs. Elle ne chante pas l'hymne américain. Alex Morgan, autre vedette de l'équipe, ne veut pas davantage entendre parler de Trump. Elle critique vivement sa politique migratoire, surtout les atteintes au regroupement familial. Enfin, Rapinoe et Morgan, comme la plupart des joueuses américaines, militent pour la parité des salaires avec les hommes, avec un argument massu. Aux États-Unis, le football féminin rapporte plus que le football masculin, le soccer. Et ce combat pour la parité salariale, on le retrouve aussi chez les joueuses norvégiennes ou danoises.
Absolument, dont on a déjà parlé, puisque la grande joueuse norvégienne Ballon d'Or n'est pas la Coupe du Monde. Plus globalement, ce type de compétition, Jean-Marc, comme la Coupe du Monde féminine, est-ce que ça peut faire bouger les lignes sur la parité dans la société ?
Alors, c'est par excellence le sujet politique, au sens premier du mot, celui de la vie dans la société. Et là encore, attention aux apparences. À première vue, on est tenté de répondre oui à votre question pour des tas de raisons. D'abord, le niveau sportif affiché, séduisant. Le fait que les entraîneurs soient également des femmes pour les grandes nations, que les arbitres soient des femmes, c'est aussi majeur. C'est la démonstration d'une compétence égale à celle des hommes. Ça aide à combattre les stéréotypes et les clichés encore bien ancrés dans les esprits. A fortiori, quand on voit le public familial dans les stades et quand on examine l'audience à la télévision, elle est à la fois forte et elle est masculine. D'une certaine façon, le football féminin avec ce type de compétition fait sa révolution libérale aux deux sens du terme libéral. Libéral au sens économique, le foot féminin confirme son entrée dans l'économie de marché, celle du business, de la pub, comme les hommes. Au sens sociétal, libéral, ça fait un pas vers la parité. Alors cela dit, attention, le soufflet pourrait très bien retomber rapidement dès la compétition achevée. Et en France, le soufflet peut même retomber dès demain soir en cas d'élimination face aux États-Unis, parce qu'on est peut-être davantage en présence d'un vent cocardier que d'un vent de parité.
Allez, Jean-Marc Faure et le monde à l'envers. Merci beaucoup, même s'il ne fait pas du tout un temps jouer au foot. Vous savez qu'il y a un match de foot France Inter France Info ce soir. Alors qu'il fait 8000 degrés.
C'est pas raisonnable.
Voilà, et Sébastien Peur qui vient d'entrer va jouer. Vous savez qu'il est mixte, ce match de foot. Audrey Tison, de la rédaction internationale, est la seule femme à jouer. Et si vous permettre, elle vous mettra tous par terre. Allez.